Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'onction du Saint-Esprit dans la vie de Philippe. Dans Actes chapitre 6 et au verset 1, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Dans ce passage, nous trouvons la première mention de Philippe. Philippe qui va devenir un serviteur de Dieu, Philippe qui va devenir un diacre dans un premier temps. Et nous allons voir comment cet homme a été pris dans l'Église pour être élevé par Dieu à un rang de serviteur et même d'un ministère d'évangéliste. Il a donc commencé par servir tout simplement dans des tâches humbles, des tâches, c'était comme le service aux tables, c'était être disponible pour les besoins matériel de l'Église, mais Dieu a vu son cœur et il lui a donné des compétences et des dispositions pour aller plus loin et être un instrument dans ses mains pour le plan qu'il avait prévu pour lui. Alors aujourd'hui encore, je dirais que nous avons besoin de cette onction. Philippe était rempli du Saint-Esprit. Eh bien aujourd'hui, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Par nos forces, nous n'y arriverons pas, nous sentirons des blocages, nous nous sentirons limités, nous sentirons bloqués dans notre avancée, mais par l'Esprit, en fait, Dieu va nous former, nous façonner pour nous faire entrer dans notre vocation. Quelques éléments dans la vie de Philippe qui montrent combien l'onction du Saint-Esprit était présente et quelles leçons nous pouvons en tirer, nous, aujourd'hui. La première leçon, c'est d'abord une onction qui vous permet de rendre un bon témoignage dans les situations difficiles. Parce qu'en fait, si vous lisez le début du chapitre 6 et le verset 1, on se rend compte qu'il y avait des problèmes dans l'église de Jérusalem. Il y avait des problèmes. Il n'y avait qu'une église, mais il y avait déjà des problèmes dans l'église. L'église était toute neuve. Elle venait de prendre naissance quelques temps auparavant, et déjà, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a des êtres humains, il y a des problèmes. Même si c'est des chrétiens. La preuve, c'est si vous lisez un chapitre avant, vous trouvez l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est un problème. Ils avaient menti. Ils étaient chrétiens, mais ils avaient menti. Ils avaient menti sur le prix d'un champ. Ils avaient dit à l'apôtre Pierre, « Voilà, on l'a vendu tel prix, on met tout là au pied des apôtres. » Ils avaient menti. Il y avait le péché, donc il s'était déjà infiltré dans l'Église. Et on sait qu'Ananias et Saphira ont été sanctionnés pour leurs mensonges. Et Dieu les a sévèrement sanctionnés puisqu'ils ont été repris, ils sont morts à cause de leurs mensonges, de leur désobéissance, et puis de leur volonté de mentir à Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on remarque un petit peu plus loin ? Il y avait des murmures dans l'Église. Chapitre 6, verset 1, « Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux », c'est-à-dire qu'il y avait des murmures entre les chrétiens. Ils murmuraient les uns contre les autres, ils se plaignaient les uns des autres. Mais partout dans la parole, nous voyons des exhortations à nous aimer les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à nous exhorter les uns les autres, mais il n'y a nulle part écrit « plaignez-vous les uns des autres ». Et là, on voit qu'ils murmuraient les uns contre les autres. Il y avait ceux d'origine helléniste, c'est-à-dire d'origine grecque, ils murmuraient contre ceux qui étaient d'origine hébraïque, c'est-à-dire ceux qui étaient d'origine juive, et ils se critiquaient les uns les autres. Mais vous savez, les murmures, entre guillemets, c'est pas récent. Si vous remontez dans l'histoire, déjà du temps de Moïse, le peuple murmurait déjà. Il y avait des murmures. Ils murmuraient contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu. Exode chapitre 16, verset 6. Si on lit la traversée du peuple d'Hébreu dans le désert, mais vous verrez que les murmures, ils reviennent tout le temps. Il y a des murmures qui reviennent. Ils étaient devenus les spécialistes des murmures. Exode 16, verset 6. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Il murmurait contre Moïse, contre Aaron et contre l'Éternel. Et là, il y a un principe spirituel qu'il nous faut saisir et que peu de croyants ont saisi finalement. C'est que quand on murmure contre des serviteurs de Dieu ou des responsables spirituels, on murmure contre Dieu. C'est ce principe qui est expliqué dans l'histoire d'Ananias et Saphira dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour eux, ils avaient menti à des hommes. Ils avaient menti à Pierre. Bon, c'est rien, on peut mentir à des hommes. Mais Pierre leur dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. Et quand vous mentez à des serviteurs de Dieu, vous mentez à Dieu. Vous mentez à Dieu. Et c'est un grave péché. Il y a peu de chrétiens qui ont fait cette connexion entre les serviteurs que Dieu a établis et sa propre personne. Et quand on trompe un serviteur, on trompe Dieu. Il y a cette connexion qui est faite. Et dans les murmures, Dieu entend ces murmures contre Aaron, contre Moïse, et il les prend pour lui. C'est comme si on murmurait contre Dieu. Et à ce moment-là, les chrétiens qui n'ont pas saisi cela, bien, ils réalisent pas que c'est contre-productif. Et en fait, en murmurant, en fait, on est en train de décourager tout le monde. Alors, Paul a une exhortation dans 1 Corinthiens 10, 10. Pour les chrétiens, pour que nous veillions à cela, il dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux. » Il fait référence à ceux du temps de Moïse, « qui périrent par l'ange exterminateur. » Ah, « ne murmurez point », ça c'est pour nous, enfants de Dieu, ne tombons pas dans ce piège comme sont tombés le peuple hébreu, comme est tombée la première église, veillons sur notre bouche, sur notre pensée, afin de nous entretenir de la parole de Dieu. Et puis, le deuxième élément négatif, donc il y avait des murmures, et puis il y avait aussi d'autres problèmes, c'est que les services étaient négligés. Il y avait de la négligence, puisqu'il est dit que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour, donc il y avait une négligence dans un service donné pour le Seigneur. Jérémie 48, 10, « Maudit soit celui qui fait... avec négligence, l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Eh bien, là aussi, la négligence, ça existe. C'est quand on prend les choses à la légère, qu'on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux et qu'on fait les choses pour le Seigneur, mais avec négligence. On ne le fait pas consciencieusement, on ne le fait pas sérieusement. Donc, il y avait une faille, il y avait un problème. Dans cette église, il y avait un problème de négligence. On négligeait son service. Là encore, la négligence, c'est pas quelque chose de moderne, de récent. On le trouve même dans l'Ancien Testament, déjà du temps du sacrificateur Élie, qui avait mis ses fils en responsabilité, mais ses fils n'étaient pas appelés par Dieu, c'était quand même un problème. Quand des gens sont mis en responsabilité, mais qu'ils n'ont pas d'appel de Dieu, qu'ils n'ont pas de ministère, ils se retrouvent en responsabilité avec le sacrificateur principal, le souverain sacrificateur Élie. Sauf que quand les gens venaient apporter des sacrifices, ben, ces deux fils d'Élie, ils mettaient la fourchette dans les offrandes et ils récupéraient tout ce que la fourchette prenait, ils le récupéraient pour eux. En fait, ils faisaient avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ils n'étaient pas sérieux, ils n'étaient pas corrects avec les règles que Dieu avait instituées. Et c'est la seule fois dans la Bible où il est question qu'ils ont commis un très grand péché. C'est dit qu'ils avaient commis un très grand péché. L'expression « grand péché », elle revient beaucoup, au moins une dizaine de fois, mais un très grand péché, c'est pour les deux fils d'Élie qui faisaient avec négligence le service dans la maison de l'Éternel. Donc chacun doit accomplir sa tâche sérieusement. On sait que les deux fils d'Élie ont été sanctionnés aussi, ils n'étaient pas sérieux, ils n'étaient pas consacrés, alors qu'ils avaient reçu une tâche, une fonction, mais le Père était responsable parce qu'il avait nommé ses fils, en fait, dans des hauts niveaux de responsabilité spirituelle, alors que ses deux fils n'étaient pas attachés, leur cœur n'était pas pleinement attaché à l'Éternel. Donc chacun doit accomplir sa tâche consciencieusement. Je pense qu'Élie est aussi responsable. Les fils, bien sûr, étaient responsables à leur niveau, mais Élie, à un moment donné, aurait dû écarter ses fils, voyant qu'ils n'agissaient pas selon les principes de la parole de Dieu. Il leur a simplement donné des recommandations. Les fils n'ont pas obéi à leur père, mais il ne les a pas sanctionnés, il ne les a pas retranchés. Donc, ne pas prendre l'œuvre de Dieu à la légère. Pourquoi ? Parce que la légèreté, c'est l'esprit du monde. Si nous sommes légers avec les choses de Dieu, c'est déjà l'esprit du monde qui rentre dans notre cœur et nous faisons les choses de Dieu avec légèreté. Maintenant, quand les problèmes se multiplient, les murmures se multiplient, la négligence se multiplie, qu'est-ce qu'il faut ? On a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Ça va être les sept diacres dont Philippe fait partie. Pas besoin des discours, pas besoin de morale, parce que quand il y a des problèmes, il y a toujours des gens qui peuvent vous parler des problèmes et dire que ça ne va pas et qu'on n'y arrive pas. Mais pour agir, il ne faut pas simplement parler, il nous faut être remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que parler, ça ne suffira pas. Et pour agir, remarquez ceci, c'est qu'ils vont chercher des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne vont pas chercher parmi ceux qui murmurent, ils ne vont pas chercher parmi ceux qui font de la négligence, ils vont chercher des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà leur témoignage. Il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Quel est notre témoignage ? Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit ? Est-ce que nous sommes de ceux qui murmurent ? Est-ce que nous sommes de ceux qui font avec négligence l'œuvre du Seigneur ? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ? Voilà le témoignage de Philippe. Il était différent des autres, rempli du Saint-Esprit. Vous témoignez par vos paroles ? Donc il n'était pas dans le clan des murmures. Vous témoignez par votre comportement. Il n'était pas de ceux qui font avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous témoignez par votre attitude, par votre ponctualité, par votre sérieux, par votre respect, par votre amour pour Dieu. Vous témoignez. Vous rendez un témoignage. Et ainsi, le Seigneur élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Et il voit ceux qui sont aptes à être à son service. Le deuxième caractéristique de l'onction dans Philippe, dans la vie de Philippe, c'est que l'onction vous qualifie pour l'exercice des responsabilités. Parce que les diacres que nous voyons ici au chapitre 6, ils vont servir aux côtés des apôtres. Les apôtres, c'était donc des ministères dons, les ministères que Jésus a donnés à l'Église. Il y a les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Les ministères dons vont être donnés à l'Église et à leur côté, il va y avoir des autres ministères comme les diacres, les évêques et toutes sortes de services qui vont se monter pour le fonctionnement de l'Église. Donc la fonction des diacres, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a établi des diacres un jour dans l'Église ? C'était pour soulager les apôtres qui avaient pour ministère l'enseignement de la parole de Dieu et la prière. Et donc il fallait qu'ils se consacrent à la prière et la parole. Et pour qu'ils s'y consacrent pleinement, eh bien on a suscité des diacres. Les diacres vont donc soulager les apôtres dans toutes sortes de tâches qu'ils ne pouvaient plus accomplir. Et on voit que les diacres vont faire partie des responsables de l'Église. Il y aura les diacres et les évêques. Vous les trouvez dans l'Église de Philippe, par exemple, dans des épîtres. Vous trouvez qu'il y a deux sortes de responsables, les diacres et les évêques. Mais diacre, c'est déjà un responsable spirituel. Des femmes ont été nommées diacres, par exemple, Phoebé, diaconesse de Sancré, a été chargée d'apporter la lettre de Paul aux Romains à la ville de Rome. Il y avait donc des responsables spirituels, même parmi les femmes, qui avaient été reconnus. Des qualifications pour trouver les diacres, eh bien, il y en avait trois. D'abord, il faut qu'ils donnent un bon témoignage. Donc, on revient à quel est notre témoignage, comment est-ce que nous vivons notre foi. Il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et troisièmement, il fallait qu'ils soient remplis de sagesse. Donc tous ceux qui voulaient postuler n'étaient pas forcément qualifiés. Il fallait déjà avoir ce témoignage, parce que pour servir le Seigneur dans les responsabilités, il y a un certain prix à payer et tout le monde n'était pas prêt à le payer. Parce que si vous êtes encore en train de négocier avec Dieu, vous n'êtes pas d'accord, si Dieu vous demande quelque chose, vous ne voulez pas, vous regimbez, eh bien, Dieu choisira quelqu'un d'autre. On n'est pas encore prêt à servir le Seigneur dans des notions de responsabilité. Mais par contre, des hommes et des femmes de foi qui sont remplis du Saint-Esprit, qui aiment Dieu, des personnes qui ne comptent pas leur temps, qui aiment le Seigneur, qui mettent Dieu en premier dans leur vie, eh bien, c'est ceux-là qui vont pouvoir être utiles pour l'œuvre de Dieu. Alors Philippe a été choisi parmi la foule, il y avait là un choix à faire, et il a fait partie des 7 premiers diacres. Il a été nommé par l'Assemblée, ça veut dire qu'il ne suffit pas de l'avoir à cœur, mais il y a la reconnaissance de l'Église qui était sur sa vie, ça veut dire on croit vraiment, on voit la main de Dieu sur sa vie, sur la vie de cette personne, on voit qu'il y a quelque chose que Dieu a suscité dans son cœur et c'est approuvé par la communauté. Si ce n'est pas le cas, si l'Église n'approuve pas, c'est que ce n'est pas encore le temps, c'est que peut-être ce n'est pas ou la personne qu'il faut, mais en tout cas, il faut la reconnaissance de l'Assemblée. On va un petit peu plus loin pour un troisième élément, dans Acte 8, toujours chez Philippe, qui va croître. Un troisième élément, une onction qui vous permet de croître. Parce que maintenant, il va croître dans le ministère, ici au verset 5, « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y avait une grande joie dans cette ville. » Voyons que Philippe a franchi un cap. Il n'est pas juste resté diacre à servir aux tables et dans la ville de Jérusalem, mais nous le voyons qu'il prêche directement, il prêche le Christ. Donc son ministère va bien au-delà de l'Église de Jérusalem, son ministère va bien au-delà de celui d'un diacre. Il n'est pas, parce qu'un diacre, en fait, la différence entre les évêques et les diacres, pour le diacre, c'est pas nécessaire la prédication. Pour l'évêque, oui, on demande que l'évêque puisse prêcher, mais c'est pas une nécessité pour le diacre. Ça fait pas partie des caractéristiques demandées au diacre. Or là, nous voyons que ce diacre-là, il prêche. Donc, il est allé plus loin que le ministère de diacre. Et nous allons voir qu'il va bifurquer vers le ministère d'évangéliste, qui est un autre ministère qui consiste à prêcher la parole de Dieu. Donc, sa soif pour Dieu, son désir d'être là où Dieu veut, va le faire évoluer dans son ministère, parce qu'avec Dieu, les choses ne sont pas figées, mais encore faut-il être sensible au Saint-Esprit, parce que Philippe a l'onction, il se laisse conduire. Et puis, il y a des saisons dans la vie, c'était une saison pour être diacre pendant un temps, et puis Dieu l'a orienté pour être maintenant évangéliste dans un deuxième temps. Philippe a un ministère béni dans la ville de Samarie, on voit que la main de Dieu est sur lui, et c'est là qu'on voit l'onction. Pourquoi ? Parce que les gens sont touchés par la parole de Dieu, et quand vous êtes touché par la parole de Dieu, c'est donc l'action de l'Esprit dans le cœur de la personne. Parce que ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles qui touchent les cœurs, mais c'est l'Esprit qui convainc de péché. Et il y avait des conversions, des repentances, des convictions de péché, tout ce que vous voulez, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Alors nous devons prier nous aussi pour être remplis du Saint-Esprit, pour que l'Esprit fasse son œuvre à travers nous. Philippe voit des délivrances, on voit qu'il y a des esprits impurs qui sortent de plusieurs démoniaques, donc ça c'est... Comment est-ce qu'un esprit va partir ? Un esprit impur, il va partir par l'action du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 28, c'est Jésus qui le dit. Il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Comment est-ce qu'il chasse les démons ? C'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. On voit que Philippe, donc, est rempli du Saint-Esprit de telle sorte que les démons sont chassés lorsqu'il les chasse au nom de Jésus. Et puis, c'est pareil pour les guérisons. Il y avait beaucoup de paralytiques, beaucoup de boiteux, donc beaucoup de guérisons. Ça veut dire que Dieu n'est pas limité. Et en quelque sorte, c'est nous qui limitons la puissance de Dieu, comme à Nazareth, lorsque Jésus a dit qu'il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles, mais à cause de l'incrédulité des gens qui résistaient à Jésus, qui ne voulaient pas du message de Jésus, et finalement, ça a étouffé, ça a amenui les possibilités de guérison. Mais là, il y avait un climat de foi, il y avait un climat d'attente de Dieu, et les guérisons se produisaient par l'action de Dieu. Quatrième élément qu'on voit chez Philippe, c'est une onction qui vous rend sensible à la voix de Dieu. Au verset 26, toujours acte 8, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et je lis le verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Il entend distinctement la voix de Dieu, par un ange, par l'Esprit. Philippe donc n'avait aucune raison objective de quitter la ville de Samarie. Pourquoi ? Parce que dans cette ville, il y avait des conversions, il fallait enseigner les gens, il y avait des miracles, donc il y avait vraiment besoin de lui pour faire l'œuvre de Dieu. Donc de lui-même, il ne serait pas parti, mais parce qu'il est sensible à l'Esprit, parce que l'onction vous rend sensible au Saint-Esprit, eh bien, il écoute que Dieu a un autre plan à ce moment-là, et qui lui dit « Va sur le chemin qui est désert, le chemin de Jérusalem, qui descend de Jérusalem à Gaza. » Quand vous êtes sous l'onction, donc vous commencez à entendre des injonctions du Saint-Esprit qui vous poussent dans des directions que vous n'avez pas prévues. Pourquoi ? Parce que l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Peut-être, humainement parlant, Philippe était plus intéressé par rester à Samarie et faire l'œuvre de Dieu à Samarie. Mais comme il était sous l'onction du Saint-Esprit, il entend comme cette voix qui le pousse, va dans cette direction. C'est cette direction pour ta vie maintenant. Et c'est là où il faut encore obéir, parce que la direction est déstabilisante. Regardez un petit peu, quittez Samarie où vous êtes reconnu, où vous avez un ministère apprécié, il y a des foules, il y a des bénédictions, il y a des grâces, il y a toutes sortes de bonnes choses qui se passent. Et puis, Dieu l'envoie dans un endroit où il ne se passe rien, un chemin qui est désert, un chemin qui... Il n'y a pas de gens, en fait. Il n'y a pas de gens pour leur prêcher la parole de Dieu. C'est un chemin vide. Et c'est un petit peu déstabilisant parce que la parole de Dieu, quelquefois, nous ne la comprenons pas quand elle nous vient, ou la pensée de Dieu nous paraît étrange. Philippe était dans un endroit où il se passait beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, des miracles, des délivrances, et Dieu lui demande, tu vas dans cette route-là, c'est désert, tu vas te mettre là. Mais il lui dit rien d'autre. Il faut juste obéir à l'injonction du Saint-Esprit. Or, on aimerait bien savoir, mais pourquoi, Seigneur, tu nous demandes d'aller là ? Sauf qu'il ne lui dit pas encore. Ça va être par la suite. Et quand il arrive sur ce chemin désert, dans un premier temps, c'est désert. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à attendre. Il n'y a rien de plus difficile pour nous d'attendre, sans rien faire, en attendant qu'il se passe quelque chose. Et là, il attend. On ne sait pas s'il attend une heure, deux heures, trois heures, on ne sait pas combien de temps il a attendu. Mais il ne s'est rien passé pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il y ait ce char qui passe tout d'un coup. Donc, il nous faut faire confiance au Saint-Esprit, sans tout savoir d'avance. Lorsque j'étais célibataire, j'ai fait une colonie à Gap. Dans cette colonie donc, que j'ai terminée, j'avais le projet de rentrer chez moi. Donc j'ai dit au revoir au directeur et à tous les animateurs, j'avais chargé la voiture. Et au moment où je démarre la voiture, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit « Reste ici encore trois jours ». Sauf que ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens pour moi. Et là, je commençais à combattre entre moi-même et cette voix qui vient s'imposer à mon cœur « Reste ici encore trois jours ». Et je me dis, mais c'est quoi cette pensée ? C'est étrange. Je ne la comprenais pas. Mais elle était tellement forte que finalement, je le fais. Je retourne voir le directeur, qui était tout surpris de me revoir, puisque je lui avais dit au revoir. Je reviens voir le directeur pour lui dire, écoute, je vais rester encore ici trois jours. Heureusement qu'il ne m'a pas demandé pourquoi, parce que je ne savais pas lui dire pourquoi. Mais déjà, il me regardait avec des yeux ronds comme des billes, et il a dû me prendre pour un bizarre. Il me dit au revoir, et j'avais dit au revoir, je rentre chez mes parents, Et je reviens pour dire, je reste ici encore 3 jours. Donc il devait se dire, lui, il est bizarre. Mais je le comprends. Je comprends qu'il me trouve bizarre, parce que moi-même, je me trouvais bizarre dans ma propre situation. Donc je n'allais pas le juger. Mais non seulement il me trouvait bizarre, mais tous ceux à qui j'avais dit au revoir, ils me trouvaient bizarre. Bref, j'étais bizarre. Néanmoins, j'ai obéi. Je suis resté, mais vous savez, quand vous restez une journée qui ne se passe rien, mais c'est long une journée quand il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé pendant une journée. Moi, j'avais hâte de partir, en fait. J'avais hâte de partir. C'était entre la fin de la colonie et le début du CIGEM, qui était un camp d'évangélisation. Il y avait un petit creux de battement, là. Il n'y avait rien. Il y avait des gens qui partaient, des gens qui venaient, mais il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait rien dans le centre. J'avais envie de partir. Au bout d'un jour, j'avais déjà envie de partir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis resté? Deuxième jour arrive, toujours rien. Et là, j'en pouvais plus. Et à la fin du deuxième jour, il y a une jeune fille qui arrive qui s'appelle Laurence. Deuxième jour. Tout d'un coup, j'ai compris pourquoi il fallait que je reste 3 jours. C'est là que la connexion s'est faite avec Laurence, qui est devenue mon épouse par la suite. Mais après, quand est arrivé le troisième jour, j'avais plus envie de partir. Mais il fallait que je parte là. Alors des fois, vous n'avez pas envie de rester, le Saint-Esprit vous dit « reste ». Des fois, vous avez envie de partir, il vous dit « reste », et des fois, vous avez envie de rester, il vous dit « pars ». Donc, quelquefois, on est à contre-temps. Finalement, je suis parti quand même au bout de 3 jours, on s'est revus par la suite, et puis, on a pu se marier. Les choses se sont faites progressivement, bien sûr, dans le temps, mais en tout cas, la forte pensée « reste ici 3 jours », qui paraissait complètement incohérente, bizarre, que moi-même je ne comprenais pas, eh bien, je n'ai pas regretté d'obéir à l'injonction du Saint-Esprit. Mais quand vous êtes sous l'onction, vous aurez des injonctions que vous ne comprendrez pas. Il faut les mettre en pratique sans comprendre. Et la compréhension viendra dans un deuxième temps. Faites confiance au Seigneur. La voie du Saint-Esprit n'ira pas forcément dans le sens de vos projets. Le Saint-Esprit peut vous demander quelque chose que vous n'avez pas prévu, qui n'est pas dans votre agenda, que vous n'avez pas envie de faire. Mais si vous voulez vivre sous l'onction, il faut accepter d'être dérangé dans vos habitudes, d'être bousculé. Si vous préférez être tranquille, si vous préférez toujours tout savoir à l'avance, vous ne pourrez pas vivre sous l'onction. Parce que l'onction, ça consiste à faire confiance à Dieu et d'être disponible entre ses mains pour faire sa volonté. Ça veut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et à un moment donné, il faut accepter le saut dans le vide. Le cinquième élément, c'est dans Actes chapitre 8, verset 30, « L'onction vous rend audacieux. » Philippe accouru. Il accourut vers le char et l'Éthiopien qui arrive. Il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Philippe ici n'est pas timide pour faire l'œuvre de Dieu. Il court pour servir le Seigneur. Mais après quoi courez-vous? Après quoi? Tout le monde court après quelque chose. Il y en a qui courent après l'argent, il y en a qui courent après un travail, il y en a qui courent après les honneurs, après une place, après un poste. Mais nous, enfants de Dieu, nous courons pour un autre but, parce que Paul dit « moi, je cours vers le but », c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Notre vocation, elle est spirituelle, et courir pour les choses de Dieu, c'est notre vocation. Courir dans le combat spirituel, comme David va courir devant Goliath par la foi. Il n'a pas peur, mais il court parce qu'il est zélé pour Dieu, et c'est comme ça qu'il remporte la victoire. En fait, c'est l'onction qui saisit David, c'est l'onction qui saisit Philippe, qui le fait courir pour être un instrument de bénédiction dans l'œuvre de Dieu. L'onction vous rendra conquérant dans la prière. Philippe est audacieux, il interpelle un ministre, il interpelle quelqu'un de haut placé, il n'a pas peur. Et frères et sœurs, l'onction nous rendra efficace dans le témoignage. Vous n'aurez pas peur de parler, vous n'aurez pas peur d'ouvrir la bouche pour donner des paroles de Dieu. Sixième élément, au verset 35, l'onction qui vous donne des paroles inspirées. Acte 8, 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » L'onction va vous faire ouvrir la bouche et vous allez commencer à donner des paroles, les paroles inspirées. Quelquefois, vous serez accusé, faussement, on vous jugera, on vous critiquera, on vous condamnera. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Quand vous êtes sous l'onction, c'est l'Esprit Saint qui parlera. Nous avons une bonne nouvelle à partager. voyez, quand je regarde le monde, je trouve qu'ils n'ont pas peur de leur message. Regardez les politiques. Quand ils parlent de leur message, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de parler de ce qu'ils croient, de leurs convictions. Ils n'ont pas peur d'aller dans les rues, de faire des meetings. Ils n'ont pas peur. Ils prennent le temps. Et tout ça pour des choses vaines. Pour le social, ils n'ont pas peur. Pour le mariage pour tous, ils n'ont pas peur. Ils font des manifestations. Et nous, chrétiens, il faudrait qu'on se ferme la bouche et qu'on ait peur et qu'on se taise. Non. Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Eh bien, c'est notre position sous l'onction, n'ayons pas honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Soyons heureux d'être chrétiens et fiers de l'Évangile. Soyons heureux de partager de Jésus autour de nous. Même si certains vous rejettent, n'ayez pas peur. Septième caractéristique, une onction qui vous procure la joie, acte 8, 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Eh bien, l'onction va vous remplir de joie au service de Dieu. Il va vous donner sa joie. Il va vous renouveler ses forces. Vous savez, il y a le plus grand voleur de joie, c'est le diable. Il veut vous rendre triste. Il veut vous rendre malheureux au service de Dieu. Il veut vous attrister dans les situations. Mais Jésus a dit, nul ne vous ravira votre joie. Faites confiance au Seigneur pour cela. Huitième, une onction qui vous fait évoluer dans le ministère, acte 21:8. Nous partîmes. Le lendemain, nous arrivâmes à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, remarquez que maintenant on l'appelle l'évangéliste, alors qu'au début c'était un diacre, il était l'un des sept et nous logeâmes chez lui. Ça montre bien que vous pouvez commencer à un certain niveau comme diacre, mais avec Dieu vous pouvez évoluer et aller ensuite au ministère d'évangéliste. Philippe a reçu le don d'évangéliste, mais ça c'est un don. C'est pas Philippe qui a décidé. C'est comme moi, par exemple, je n'ai pas décidé d'être pasteur. Moi, j'avais décidé pour ma vie d'être dessinateur en publicité. C'était ma formation, c'est pour ça que j'ai travaillé dans ce domaine. C'était mon travail pour Dieu. Et alors que j'étais dans cette voie, le Seigneur m'a interpellé pour venir servir dans l'Église comme pasteur. Mais c'est un appel de Dieu. J'ai ressenti un appel dans mon cœur, un appel à servir le Seigneur, à quitter ce que je faisais pour servir le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais il y a des choses que Dieu a choisies pour vous et qu'il va vous donner. Alors vous dites peut-être, ah oui, mais moi je n'ai pas envie d'être pasteur. Je n'avais pas envie d'être pasteur, honnêtement. Mais quand Dieu m'a appelé à être pasteur, en fait, il m'a donné la passion pour être pasteur. C'est-à-dire quand Dieu vous appelle à quelque chose, parce que moi, ma passion, à l'époque, c'était le dessin, la peinture et puis tout ce qui était les arts graphiques. C'était ma passion. Mais il m'a enlevé cette passion et il m'a mis une autre passion qui est la passion de la parole de Dieu, de l'enseignement et de tout ce qui concerne le ministère pastoral. Je ne l'avais pas avant, l'appel. En même temps qu'il vous appelle, il vous met la passion pour faire l'œuvre à laquelle il vous appelle. C'est pour ça que ce n'est pas un fardeau de faire les choses de Dieu, puisqu'il vous donne en même temps les éléments pour faire l'œuvre. Je termine. Neuvième élément. L'onction qui bénéficie à toute la famille, acte 21:9, c'est Philippe qui l'avait, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. C'est-à-dire que l'onction qui était sur Philippe s'était répandue dans toute sa famille. Ses propres filles prophétisaient, elles étaient aussi dans l'onction du Saint-Esprit. C'était la promesse dans la parole, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Eh bien, Philippe a vécu littéralement l'onction dans sa vie personnelle, l'onction dans sa famille, mais pour vivre l'onction dans sa famille, eh bien, priez avec vos enfants. Passez un temps de culte familial tous les jours. Ayez un temps pas très long, un chant, un court passage biblique, une prière, mais ça montre votre amour pour Dieu et vos enfants, comme ça, rentrent dans... Ils voient que ce n'est pas que le dimanche qu'on prie le Seigneur, mais ils voient que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et cette onction se communique comme cela dans toute la famille. Et là, les filles de Philippe, eh bien, non seulement se sont converties, mais elles se sont mises à prophétiser. Que le nom du Seigneur soit béni pour tous ces enfants qui sont touchés par la grâce de Dieu, qui vient comme un impact. On va prier quelques instants. On a vu combien l'onction a été marquante et déterminante dans le ministère de Philippe. Moi, je dirais que l'onction, elle est toujours indispensable aujourd'hui, même si les progrès technologiques sont là, même si la médecine a fait des grands progrès, la science aussi nous permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Mais plus que jamais, nous avons besoin de développer cette communion avec le Saint-Esprit qui nous fait connecter aux choses spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner cette précieuse onction. Merci encore, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne, comme Philippe, à vivre une vie remplie du Saint-Esprit pour faire ton œuvre, faire ta volonté. Nous te prions ce matin de venir nous faire grâce et de nous équiper, de nous remplir de ton esprit et de nous accorder, Seigneur, ce renouvellement spirituel dont nous avons besoin, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter simplement à vous lever à votre place tous ensemble. Est-ce qu'on peut élever la voix quelques instants pour demander un renouvellement dans le Saint-Esprit maintenant ? Alléluia. Chacun élève la voix à sa place, librement. Alléluia, Saint-Esprit, viens renouveler nos vies. Viens nous accorder tes dons. Viens transformer nos cœurs pour nous rendre plus malléables, plus sensibles à ta voix. Seigneur, nous soupirons après des temps de rafraîchissement, de visitation, de bénédiction. Que ta grâce coule sur nous ce matin. Que ton onction nous visite, Seigneur. Oui, nous voulons refléter Christ. Nous voulons être remplis de ce fruit de l'Esprit, de ces dons de l'Esprit. Que nos cœurs débordent. Oh, que nous puissions vivre cette abondance comme Philippe, Seigneur. Des fleuves de vie qui coulent à travers nous, Seigneur. Oui, tu déverses ton esprit avec abondance, Seigneur. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Oh, ce matin, c'est vers toi que nous élevons la voix, Seigneur. Viens visiter ton peuple, Seigneur, ton Église. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci de remplir nos cœurs de ta paix, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.